Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Blaise Shindani Kambala.
Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette grande édition du journal du matin dont voici les titres. L'accès aux soins de santé devient un casse-tête dans le nord et le sud Kivu. C'est ce qui ressort d'une évaluation menée par le CICR dans environ 240 structures de santé de ces deux provinces de l'est du pays confrontées à l'activisme des groupes armés. Les détails dans un instant. Bonne nouvelle pour les automobilistes de la zone ouest de la République démocratique du Congo, y compris Kinshasa. Le prix du litre du carburant baisse de 10% à partir de ce mercredi 8 octobre. L'invité de ce journal, c'est le docteur Antoine Moda Onyanjo. Il est professeur d'université, gynécologue, obstétricien et échographiste dans le cadre d'Octobre Rose. Il revient sur l'importance de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein et donne des précisions sur l'autopalpation du sein. D'abord, cette information qui vient de nous parvenir, le président de la République Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo est arrivé hier mercredi soir à Bruxelles en Belgique pour participer à la deuxième édition du Global Gateways Forum prévu du 9 au 10 octobre courant. C'est ce que rapporte la présidence de la RDC sur son compte X. Il s'agit d'un sommet international organisé par l'Union européenne pour discuter de la coopération mondiale sur les infrastructures, le développement durable et la connectivité. Il vise à renforcer les partenariats en mettant l'accent sur des projets fiables, durables et éthiques, souvent dans les domaines de l'énergie, des transports ou du numérique. Encore une fois, bonjour mesdames, bonjour messieurs. L'accès aux soins de santé devient de plus en plus difficile dans les nord et les sud Kivu. C'est ce qui ressort d'une évaluation menée par le Comité international de la Croix-Rouge CICR dans environ 240 structures de santé de ces deux provinces de l'est du pays confrontées à l'activisme des groupes armés, réalisé du 2 au 10 septembre, cette évaluation dont les résultats ont été rendus publics mercredi révèle que 85% des structures de santé sont en rupture des stocks de médicaments et d'intrants essentiels pour soigner les malades et les blessés. Une situation aggravée par les conflits en cours dans la région et à l'arrêt des activités de nombreuses organisations humanitaires faute de financement. Les précisions avec vous, Lukin Zao.
Les transferts des blessés vers les structures de santé appropriées posent problème à cause des combats. Certains patients se voient obligés de parcourir des longues distances à pied en risquant leur vie afin de trouver les soins adaptés à leurs besoins. Plus de 70% des structures de santé sur les 240 évaluées ont reçu des blessés par arme. Une situation provoquée par la reprise des violences s'alarme le Comité international de la Croix-Rouge. François Morillon, chef de la délégation.
La situation sur le terrain se détériore avec une reprise des violences armées dans le Grand Nord, le Petit Nord, ainsi que le Sud Kivu, où nous constatons, aux côtés de mouvements de population, un afflux massif de blessés. Cette situation met sous pression des structures déjà fragilisées. Nous nous inquiétons, bien sûr.
Une autre difficulté concerne les ruptures en médicaments essentiels et ceux censés être gratuits, que François Morillon attribue, entre autres, aux défis logistiques.
Par exemple, la fermeture des aéroports qui recevaient les médicaments. Les services, que ce soit d'un côté comme de l'autre, ne sont plus mobilisables, faute de moyens ou en raison de l'instabilité. Le CICR a d'ailleurs par le passé, à la demande des parties, permis le transit de certains médicaments à travers les lignes de front.
Cette évaluation concerne aussi bien les zones contrôlées par l'AFC M23 que celles contrôlées par le gouvernement, à en croire François Morillon.
Alors que le pourparler de paix entre la RDC et le Rwanda sous l'égide des États-Unis semble au point mort, Kinshasa réitère sa position. Pas de signature d'accords économiques avec Kigali avant le retrait des troupes rwandaises déployées dans l'est de la RDC en appui aux rebelles du M23. Cette position a été rappelée hier mercredi par le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement, Patrick Muyaya Katembwe. Il s'exprimait lors d'un briefing face à la presse. On écoute Patrick Muyaya dans cet extrait proposé par Radio Kapi.
à Washington la semaine dernière, notre délégation n'a pas signé les documents qui devaient donner naissance au cadre d'intégration économique régionale parce que simplement nous avons estimé que les conditions de paix n'étaient pas réunies sur le terrain pour permettre que nous puissions passer à l'accord économique. Notre position, elle est restée cohérente. Le président de la République a plus d'une fois a dit qu'on ne pourra parler de paix, d'économie ou d'intégration que lorsque nous aurons la paix restaurée et une paix que nous souhaitons définitive et durable. Par exemple, en juillet, le massacre des civils avec un ciblage ethnique qui a eu lieu dans le Rutshuru, tous ces bruits de bottes qu'on entend, dans un tel décor, on ne pouvait pas procéder à la signature de ces cadres qui doivent nous permettre de formaliser une coopération économique. Nous pensons que ces cadres doivent venir après que les conditions d'un retour à la paix que nous souhaitons définitive et durable pourront être réunies.
En Ituri, pendant ces temps, environ 90% des habitants du groupement de Lopa dans les territoires de Djougou sont déjà rentrés ces deux derniers mois dans leur village d'origine situé à une quarantaine de kilomètres au nord de Bounia. Ce retour massif est rendu possible grâce à la présence des FARDC et des casques bleus de la MONUSCO déployés temporairement dans cette zone souvent ciblée par des groupes armés. Les patrouilles des casques bleus ont favorisé la reprise des activités agricoles et scolaires selon les notables locaux. Dans une correspondance adressée mercredi au leadership de la mission onusienne, ils plaident pour l'installation d'une base militaire permanente de la MONUSCO afin de consolider cette paix retrouvée. Didier Etienne, notable de l'OPA, le dit au micro d'Isaac Remoyope.
Nous constatons quand même il y a calme. Bon, nous avons la présence de la FARDC là-bas. Il y avait aussi la MONUSCO. Car la MONUSCO, elle était venue là-bas, ça avait donné solution à beaucoup de choses. La première que je peux énumérer, il y a la rentrée même scolaire des enfants. Parce que il y avait les sécurités. La population avait quitté les milliers, s'est déplacée de temps en entre. Alors, quand la MONUSCO et la FARDC étaient là-bas présentes, ça a aidé suffisamment. Deuxièmement, la MONUSCO a aidé. Ils faisaient leur patrouille, même accompagnaient nos femmes, nos enfants, même au champ. Et puis, leur arrivée pourrait faciliter aussi la rentrée de certaines populations dans leurs milieux respectifs. Alors, par rapport à ça, en tout cas, nous, la notabilité de l'OPA, avons besoin de la présence permanente de la MONUSCO dans les 10 milliers. Elle venait et puis rentrait. Ça allait beaucoup soulager la population et c'est leur demande. On réclame ça.
Le chef de bureau de la MONUSCO affirme avoir pris acte de cette requête. Il rappelle cependant que la solution durable à l'insécurité qui endeuille l'Ituri demeure le dialogue et la cohabitation pacifique entre les communautés locales. Bonne nouvelle pour les automobilistes de la zone ouest de la République démocratique du Congo, y compris Kinshasa. Le prix du litre de carburant baisse de 10% à partir de ce mercredi 8. L'annonce a été faite mardi par le ministre de l'Économie. Pour l'essence, par exemple, le litre à la pompe passe de 2990 francs congolais à 2690 francs congolais, soit une baisse de 300 francs congolais. Cependant, à Kinshasa, l'application de ces nouveaux prix n'est pas encore effective dans toutes les stations-service. Rachel Kalombe a sillonné quelques communes de la capitale pour faire les constats. Voici son reportage.
Sur le terrain, les clients se disent satisfaits de la baisse du prix du carburant sur les marchés.
Merci au gouvernement. Ils ont baissé les prix du carburant pour nous qui sommes motards. Nous espérons que cela ne puisse pas se limiter qu'au carburant.
Jusqu'à présent, seules quelques stations privées appliquent les nouveaux prix. En revanche, les grands groupes comme Engen, Total ou Cobil continuent d'afficher les anciens tarifs. Selon les responsables des stations-service rencontrés, ils attendent la fin de la journée pour ajuster leurs prix. Ils expliquent vouloir écouler leur stock actuel afin de limiter leurs pertes. Cette baisse du prix du carburant à la pompe suscite des frustrations, comme l'exemple du gérant d'une station indienne qui préfère rester anonyme.
Vous savez, lorsque le prix du carburant baisse alors qu'un stock a été acquis à un prix plus élevé, cela crée un déséquilibre financier pour nous, les stations-service. Nous sommes alors contraints de vendre à perte, ce qui impacte la rentabilité. Il sert aussi judicieux que l'État tienne compte de ces réalité, on prévoit un mécanisme d'ajustement.
Les automobilistes espèrent que cette baisse sera rapidement effective dans toutes les stations-service de Kinshasa. Ils souhaitent également que cette réduction du prix du carburant se reflète sur le coût des biens et services.
Dans le même registre, Kasaï Oriental, stabilité du prix de la mesurette de maïs sur les marchés de Mbujimayi. C'est depuis près de 5 mois que le prix de la mesurette de maïs nage entre 2500 francs congolais et 3300 francs congolais. À la base de cette baisse, le ravitaillement à Mbujimayi des 7 denrées alimentaires effectuées par le service national de Kanyamakasese. Des explications avec Esther Ndalafina.
Plus de 5 dépôts disséminés à travers la ville sont ravitaillés en grande quantité de maïs par le service national de Kanyamakasese. C'est ainsi que la mesurette de maïs de 3,5 kg se négocie au marché de Mbujimayi entre 3 000 et 3 300 francs congolais. Ce prix représente 1,3 dollars. Pourtant, les années précédentes à cette même période de semaille, le prix de la mesurette de cet aliment de base galopait jusqu'à 5 dollars. Explication d'un agent de service national affecté à la vente du maïs.
Nous avons multiplié le nombre de dépôts. Nous sommes à 12 000 tonnes pour la ville d'Mbujimayi. C'est ce qui fait que les gens viennent acheter, on dirait, dans un magasin. Une fois arrivé, une fois servi, et vous partez. Et même nous avons cassé cette espèce de réseau de revendeurs qu'on appelle l'Anchiriba de Diamant.
Les femmes ménagères saluent cette stabilité du prix de cet aliment de base de la province.
Il y a beaucoup de maïs de service national. Ça nous permet de bien manger avec les enfants.
Et ce de Kanyamakasese a permis qu'il n'y ait pas hausse de prix sur les marchés. C'est une bonne chose.
Signalons que le prix de maïs est resté également stable au marché maréchal dans la commune de Bipemba, souvent approvisionné par les agriculteurs. Esther Ndalafina, Mbujimayi, Radio Okapi.
Mobiliser 100 milliards de dollars pour reconstruire et développer la République démocratique du Congo. C'est un défi que lance Expo Béton aux investisseurs venus nombreux à la 10e édition de cette plateforme de dialogue stratégique. La première ministre Judith Suminois a ouvert des travaux de cette édition hier mercredi au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale. Thème des travaux, 100 milliards de dollars pour rebâtir la RDC, catalyser une transformation audacieuse pour le 21e siècle. Reportage de Jeff Ngoï Molonda.
La mobilisation de 100 milliards de dollars est possible en travaillant ensemble, selon la première ministre Judith Suminois, qui a fixé l'orientation des travaux pour reconstruire, moderniser et industrialiser la RDC post-conflit.
Travaillons ensemble pour des routes sécurisées reliant Kinshasa à Lubumbashi en moins de 7 jours, l'accélération d'Inga 3 et des interconnexions régionales pour alimenter le continent. Des zones économiques spéciales compétitives connectées au corridor, capables d'attirer des investissements massifs. Avec 100 milliards de dollars, nous pouvons rebâtir une République démocratique du Congo post-conflit.
D'après le fondateur de cette plateforme, Jean-Bamanissa Saïdi, l'esprit Expo Béton refuse le désordre dans la construction, dans les malfaçons, le non-respect des règles et le chaos urbanistique.
Ce salon est né d'une vision simple mais ambitieuse. Faire du secteur de la construction un levier essentiel pour le développement durable de notre nation, un pilier essentiel de l'économie de la RDC. Le marché congolais est porteur de croissance et des investissements de 100 milliards accroîtront les capacités du marché interne.
Durant 3 jours, on aura différents panels thématiques et multisectoriels au cours desquels les participants vont s'intéresser notamment au transport, à l'environnement, à tout ce qui peut contribuer au développement de la RDC post-conflit.
Ce journal se poursuit dans le sud Kivu. Les usagers de la route Bukavu-Goma alertent sur l'état de délabrement du tronçon situé au niveau du village de Tchofi dans le territoire de Kalehe. Selon eux, cette situation sur la route nationale numéro 2 nuit gravement aux activités socio-économiques dans la région. Ronéline Tibonera.
Ce délabrement est la conséquence directe de pluies qui s'abattent sur cette zone depuis 2 semaines. Ces fortes précipitations ont provoqué des éboulements des terres. Le mot des terres, charrié par les eaux, se retrouve sur la chaussée, rendant la traversée particulièrement difficile. Du côté des Tchofi, la rivière Kalinga est sortie de son lit. Ici, les conducteurs de voitures et des motos rencontrent d'énormes difficultés. Les eaux de cette rivière menacent même de couper la route en deux. Les habitants de la région plaide pour l'envoi urgent des machines adaptées afin de lancer les travaux de réfection. L'état des routes dans les territoires des Kalehe reste préoccupant. En période de pluie, les habitants des localités Komiabibwe et Tchofi peinent à se déplacer. Le 16 juin 2025, le responsable de la rébellion de l'FC-M23 avait exprimé leur volonté de réhabiliter ces tronçons. 4 mois plus tard, la population attend toujours de voir les effets concrets de ces travaux.
Actualité internationale.
Le président américain a annoncé dans la nuit du 8 au 9 octobre qu'Israël et les Hamas ont approuvé la première phase de son plan de paix. Cela veut dire que tous les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue, les premières étapes en vue d'une paix solide, durable et éternelle, a indiqué le président américain.
L'invité.
Octobre Rose est une campagne annuelle de communication qui vise à sensibiliser les femmes au dépistage du cancer du sein et à récolter des fonds pour la recherche. La prévention et la lutte contre cette maladie continuent effectivement chaque année afin de réduire les risques de mortalité. En ce mois d'octobre, le docteur Antoine Modia, professeur d'université, gynécologue, revient sur l'importance de la sensibilisation au dépistage du cancer du sein et donne des précisions sur l'autopalpation du sein. Suivez docteur Antoine Modia dans cet entretien avec Stanislas Diomi.
Professeur Dr Antoine Modia Oyanjo, bonjour.
Bonjour, bonjour.
Vous êtes président administrateur de la Fondation des Anges et la Fondation des Anges sensibilise les femmes sur le dépistage des cancers du col de l'utérus, cancer de sein. Et comme vous le savez, le mois d'octobre est consacré à la sensibilisation au cancer de sein. Quelle est l'importance accordez-vous à ce mois?
Mais ce mois ici, c'est un mois dédié mondialement à ces cancers, un cancer qui détruit, un cancer qui est mondialement craint parce que il entraîne presque 50% de décès de femmes
sur le plan mondial.
Sur le plan mondial, à peu près. Donc en France, par exemple, tous les ans, on a à peu près 60 000 cas, nouveaux cas. Et là-dedans, à peu près 12 000 de femmes qui meurent. Et tout dépend du stade auquel on a pu dépister ces cancers. Et pourtant, c'est un cancer qui ne devait pas tuer.
Et dans notre pays, il n'y a pas de chiffres?
Bon, mais écoutez, pour les quelques cliniques et les quelques études que j'ai parcourues, ça représente à peu près 10% de femmes qui font les cancers du sein et 70% en meurent.
Que devons-nous retenir du cancer de sein?
Mais c'est un cancer comme tous les autres cancers. Un cancer, en fait, c'est le fait que une cellule, vous savez, chacune de nos cellules a un programme, comme tous les hommes, naissance et la mort. Mais malheureusement, il y a certaines cellules, par exemple au niveau du sein, et qui peuvent ne pas respecter le programme. En fait, tout ceci est contrôlé par ce qu'on appelle le système immunitaire. Mais les défaillances à ces niveaux peuvent être d'origine héréditaire, génétique ou environnementale.
Et alors, docteur, le cancer de sein touche seulement les femmes ou les hommes?
Mais ça, c'est une belle question. Donc, c'est un cancer qui intéresse également l'homme. Mais
on en parle de moins en moins.
On en parle de moins en moins parce que ça ne représente qu'à 1% des cancers du sein.
Docteur Antoine Modia, parlons de l'autopalpation. Plusieurs opinions insistent là-dessus. Mm. Et surtout que nous sommes au mois d'octobre rose.
Oui, oui.
Il y a des femmes et même des hommes qui en profitent pour dire, tiens, c'est le mois de la palpation. Il faudrait que les hommes puissent palper les seins de leurs femmes. Et cela commence à intéresser même les jeunes filles. Ils se disent, non, on doit me palper les seins pour que je puisse connaître si j'ai le cancer.
La palpation, elle est simple. C'est-à-dire qu'il faut prendre la main gauche pour palper le sein droit. Il faut commencer par la base du sein et puis avancer jusqu'au niveau du mamelon. Et à ces moments-là, vous allez vous habituer à connaître votre sein parce qu'il y a toujours une boule dedans. C'est une glande, elle est souple, elle ne pose pas de problème. Et il faut finir toujours par pouvoir presser pour extraire le liquide éventuel qui peut se... Normalement, un sein normal ne peut pas pouvoir donner lieu à un écoulement quelconque.
Oui.
Ni lacté, ni liquidien, ni sanglant surtout. Ce genre de choses. Vous dites des petites filles, parce que maintenant, je crois qu'il faut les faire. Comme on a dit, à l'époque, on considérait les cancers du sein comme étant un cancer de femme âgée, à partir de 50 ans. On dit aujourd'hui, il faut que tout le monde sait pas. Parce que l'environnement a changé, les modes d'alimentation a changé, les gens mangent beaucoup plus gras qu'autrement. Il faut éviter tout ce et qui est graisseux. Il faut éviter l'obésité, la sédentarité. Il faut bouger, il faut toujours bouger. Alors la palpation, elle est simple, on peut la faire de manière quotidienne, surtout quand on se lave, on passe les mains dessus, ou bien une fois par mois. À ces moments-là, il faut approfondir, on peut être en position couchée pour pouvoir plaquer le sein contre la cage thoracique, on peut facilement découvrir. Mais je vous ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de sentir des boules, mais à partir d'un certain âge, j'ai dit à partir des 40 ans, il faut aller faire ce qu'on appelle la mammographie. Là, on peut détecter les cancers du sein dès le début, dans encore les canaux galactophores, donc et l'autopalpation. Quand vous avez dit que les hommes veulent bien palper les seins de leurs femmes, ben, je crois que c'est un service qu'elles peuvent rendre. Il faut dire aussi que le sein, ça ne sert pas qu'à donner du lait aux enfants. C'est aussi un organe érotique. C'est vrai, mais il ne faut pas qu'on en profite.
Professeur Dr. Antoine Modia Oyanjo, je rappelle que vous êtes président administrateur de la Fondation des Anges. Nous vous disons merci.
Mais c'est moi qui vous remercie parce que vous aidez ces femmes-là à pouvoir s'auto-sauver.
C'est par là aussi que nous mettons un point final à notre grande édition du journal du matin qui a connu la coordination et la supervision éditoriale de Poli Mousalia. Sa mise en onde a été assurée par Pierre Diassinois. Vous pouvez encore réécouter ce journal sur toutes nos plateformes digitales et sur notre site internet www.radiocapi.net.